Salut à toutes et à tous. Au sommaire de ce Rétrovision, nous aurons Croisière pour un cadavre, Les aventures de Mokhtar, Ghostbusters 2, un dossier spécial sur la Pleidia, la première partie du test de Demon Front et la démo Amiga World of Commodore 92 du groupe Sanity. Bienvenue sur Rétrovision. On se retrouve une nouvelle fois pour un épisode rempli de rétro gaming avec un programme alléchant et on commence avec un classique du début des années 90, Croisière pour un cadavre de Delphine Cinematic Software. Après avoir réalisé Les Voyageurs du Temps et Operation Stealth, Delphine Software continua sur sa lancée pour nous proposer des titres de qualité avec Croisière pour un cadavre, un point and click mélangeant aventure et enquête policière. Sous les traits de Raoul Dussentier, vous dirigez un inspecteur de police invité à bord d'un bateau appartenant à l'homme d'affaires Niklos Karaboudjan. Petite référence à Tintin. La progression se fait en discutant avec les bonnes personnes au bon moment et en récoltant des indices. Souvent, il suffit de questionner un suspect sur un sujet particulier pour faire avancer l'enquête. À chaque fois que l'on trouve un indice important, une horloge avance de 10 à 15 minutes. Et il arrive de se retrouver souvent bloqué, ne sachant plus quoi faire. Dans cette situation, il faut repasser le bateau au peigne fin et réinterroger tous les suspects en vérifiant d'avoir parlé de tous les sujets possibles. La réalisation technique était bluffante pour l'époque, avec des décors finement dessinés sur Deluxe Paint, mais surtout, l'éditeur a utilisé quelques effets cinématographiques comme le travelling, le contre-plongé, les gros plans et les flashbacks. En plus de ça, le personnage se déplaçait selon une 3D vectorielle qui peut paraître complètement dépassée de nos jours. Croisière pour un cadavre était un incontournable pour tout amateur d'enquête policière. Ici, on ne peut pas parler vraiment de grande aventure, tout se passe sur un voilier des années 20. Et son charme est basé sur une intrigue prenante où le joueur doit mettre à profit son sens de la déduction. Au début des années 90, il était courant de faire des jeux vidéo adaptés de dessins animés ou de films à succès. Mais ce qui était plus rare, c'était de se servir d'une chanson et d'un clip vidéo. Eh bien, l'éditeur Titus, n'ayant peur de rien, a osé ce pari complètement fou pour mettre en scène le célèbre animateur Vincent Lagaffe et le tout aussi célèbre quartier parisien Barbès. Vous incarnez le personnage de Mokhtar, qui est en fait Vincent Lagaffe déguisé en maghrébin. Et son but est de retrouver la Zoubida, une jeune demoiselle séquestrée dans son HLM par sa mère très conservatrice. Une fois réunis, les deux tourtereaux pourront aller au bal spécialement donné à Barbès. Mais avant d'en arriver là, le brave Mokhtar va devoir éviter mille et un dangers en traversant des quartiers plutôt craignos, mais aussi des chantiers, des couloirs de métro, des immeubles délabrés et même des catacombes. Au niveau des ennemis, on reste dans un style très urbain, façon SD. Et pour les faire valser, il n'y a qu'un seul moyen, leur balancer un objet en pleine face, et du premier coup, si possible, car les objets sont à usage unique. Comme vous pouvez le constater, les déplacements sont extrêmement rapides, ce qui peut poser quelques problèmes lors de certains sauts ou pour monter sur les échelles. Pareil pour les ennemis, leurs projectiles se déplacent à 200 à l'heure et cela nécessite de bons réflexes pour les éviter. Les décors sont particulièrement réussis, le côté parisien est bien rendu, même si pas mal de tableaux se déroulent durant la nuit ou dans des endroits obscurs. Quant à la partie sonore, on retrouve quelques thèmes orientaux et bien entendu la chanson de la gaffe, la Zoubida. Les aventures de Mokhtar n'est pas un grand classique du jeu vidéo. Il est beaucoup moins connu que son homologue les Blues Brothers du même éditeur. Et en plus, dans la version nord-américaine, Mokhtar a été remplacé par la mascotte de l'éditeur, à savoir Titus the Fox. Ghostbusters 2 sur Atari ST est l'adaptation du film éponyme sorti au cinéma en 1989. Les introductions sous forme de digitalisation nous expliquent comment les célèbres chasseurs de fantômes new-yorkais reprennent le service après la réapparition de phénomènes paranormaux dont a été victime Oscar, le bébé de Dana. Le jeu est divisé en trois parties qui représentent chacune un moment marquant du film. On commence la partie avec la descente souterraine dont l'objectif est de ramasser un échantillon de slime tout en évitant les nombreux spectres. Ce niveau est le plus délicat car il faut bien doser les sauts et se balancer de manière bien précise. Le deuxième niveau s'apparente à un shoot'em up au contrôle rudimentaire. Vous dirigez une boule de feu et à chaque ennemi abattu, celui-ci libérera une goutte de slime qu'il faudra récupérer rapidement en envoyant les citoyens new-yorkais avec la barre d'espace du clavier. Et pour celles et ceux qui auraient eu la patience d'arriver jusque-là, l'épreuve finale vous opposera à Viggo. D'ailleurs, ce niveau reprend presque au pixel près la scène du film. Graphiquement, Ghostbusters 2 est bien réussi, avec des digitalisations sympathiques. Idem pour la partie sonore, tout digitalisé, avec le thème de Ray Parker Jr., un classique des années 80. À cette époque, les adaptations cinématographiques en jeux vidéo étaient souvent plus que médiocres. Malgré sa faible durée de vie, Ghostbusters 2 a bien vieilli, notamment grâce à ses trois niveaux au gameplay différent. Bandai, fabricant de jouets mais également éditeur et distributeur de jeux vidéo, se lança dans la bataille des 32 bits dans le milieu des années 90. La Playdia QIS pour Quick Interactive System sortit le 23 septembre 1994 et ne laissa que peu de doutes quant au public visé. Avec son aspect très jouet et ses couleurs flashy, son esthétique tranche radicalement avec le design sobre des autres consoles. La machine intégrant une puce de décompression MPEG, celle-ci offrait des séquences vidéo de très bonne qualité pour l'époque. À l'instar des jeux Laserdisc en arcade, sa ludothèque se compose donc exclusivement de titres basés sur la vidéo, utilisant principalement un système similaire au QTE, Quick Time Event. La plupart des titres disponibles sur cette plateforme sont des licences à succès détenues par Bandai, essentiellement Dragon Ball, Sailor Moon, Ultraman et Gundam. Les principaux utilisateurs de cette machine étaient les enfants de moins d'une dizaine d'années. On trouve également quelques softs ludo-éducatifs. Au final, la Playdia ne disposera que d'un catalogue de 33 titres publiés entre le 23 septembre 1994 et le 26 juin 1996. Si Jeu ne vire jamais le jour, Bandai fut d'ailleurs le seul à éditer des titres pour sa machine, cette dernière n'ayant jamais intéressé les éditeurs tiers. Aucun nombre de ventes n'a jamais été communiqué. Il est donc difficile de se faire une idée du succès rencontré par la Playdia sur l'archipel nippon. Toutefois, succès ou bide, cela n'empêchera pas Bandai de retenter l'expérience par la suite, que ce soit dans les consoles de salon ou les consoles portables. SD Normal World, combien de
histoires il y a ? Il y a 4 histoires. Kidou Senshi Gundam, Zion Kogoku et Tsukyu Renpou Gun, la guerre de l'Empire.
Il y a une guerre de 1 an.
Demon Front. Attention, chef-d'œuvre. Voici Demon Front, un run and gun sorti en 2002 par l'éditeur taïwanais IGS et disponible uniquement sur arcade. Ce test a été réalisé en deux parties. La première traitera des aspects techniques au niveau du gameplay et explorera les trois premiers niveaux. Évidemment, la première chose qui saute aux yeux est sa ressemblance avec Metal Slug. Certes, Demon Front reprend l'esthétique du hit de Nazca, mais après quelques parties, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de différences sur plusieurs aspects. On ne peut donc pas vraiment parler de clone par rapport à Metal Slug. On commence donc avec la sélection de notre personnage fétiche, Jack, Maya, Sarah et Dr. J. Et chacun d'entre eux est accompagné d'un animal de compagnie robotisé qui se contrôle comme un module. Et comme une image vaut mille mots, voici un petit tutoriel à la Neo Geo. Haut, bas, droite, gauche avec le stick. Ensuite vous avez le tir primaire sur le A. Restez appuyé pour déclencher l'attaque du petit animal, le bouton B pour sauter, maintenez appuyé pour planer dans les airs, le bouton C pour activer le bouclier et remarquez qu'il n'y a pas de glissade.
Action 1. Seizure.
Il est possible d'améliorer son armement en récupérant une mitrailleuse, un fusil à pompe, un fusil électrique, un lance-grenade et un lance-glace. Les petites bestioles peuvent être utilisées de deux manières. Soit en attaque en maintenant le bouton A enfoncé, soit sur C, ce qui le transformera en bouclier. Chaque animal a sa propre particularité au niveau du tir, De plus, au fur et à mesure que vous progresserez, le petit animal verra son niveau augmenter, pouvant aller jusqu'à 9. Autre excellente idée, la faculté de planer dans les airs, grâce à des ailes, en laissant le bouton B enfoncé. Et mine de rien, une bonne maîtrise des ailes vous permettra de vous sortir de situations très délicates. Deux jauges sont affichées en haut à gauche. Celle de couleur orange indique l'accumulation des attaques au corps à corps et dès qu'elle aura atteint son maximum, le niveau de l'animal augmentera d'un point. La jauge bleue, quant à elle, représente la puissance de l'arme actuellement utilisée. La jauge située en bas à gauche est un compteur de combo au corps à corps et reprend le même principe des chaînes dans les shoot'em up. Si on laisse trop de temps mort pour toucher les ennemis, la chaîne est rompue et elle repart de zéro. C'est déjà la fin de la première partie du test de Demon Frond qui clôture en force cet épisode. On se retrouve dans quelques semaines avec, je l'espère, une voix moins enrhumée. On se quitte avec une démo Amiga World of Commodore 1992 du groupe Sanity. À très très vite sur Rétrovision.
Thank you.